club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc, du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, sur la 93.5, nous sommes au vendredi 19 avril 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce cinquième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Ikeda TV est à la mise en onde. Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie. Là, nous sommes au grand nord du pays à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes, toujours ponctuels, Francisco Napokoura, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée. Et bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, la nouvelle génération. Et particulièrement, mes salutations à mon ami Bouyoudi, qui est directeur de la radio La Paix de Atapamé. Et aussi à un ami particulier, Djobo Mima, qui est en forte campagne dans la ville de Atapamé. Mmh. Et Pascal, permettez-moi de vous adresser vraiment toutes nos félicitations pour le travail abattu surtout au cours de cette semaine et toutes nos admirations au professeur Wolu qui au cours de son émission a été vraiment très concis et également à Nathaniel Olympio d'accord qui par ailleurs et voudrait un débat ouvert entre le ministre Gilbert Bawara élu sur la nouvelle génération. Je pense que dans la semaine prochaine vous devez tout faire pour pouvoir réunir le ministre Gilbert Bawara et Nathaniel Olympio autour de cette table.
D'accord, nous allons entreprendre les démarches.
C'est très important parce que beaucoup d'auditeurs l'ont rappelé et aussi en ville, quand vous circulez, ceux qui nous parlent, qui savent qu'on vient sur Canal FM, voudraient véritablement écouter ces deux personnes en direct sur Canal FM, la nouvelle génération.
D'accord, ce serait très intéressant ce débat. Et donc, nous allons aussi commencer ou entreprendre aussi les démarches nécessaires pour que cette émission, ce débat à deux, avec Nathaniel Olympio et le ministre JB Bawara puisse avoir lieu. Donc, ne vous en faites pas, je vais m'y atteler. Alors, un invité que nous avons aujourd'hui, invité culturel, bien sûr, cette fois-ci, c'est David Kekeli. David, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Je vais super bien, je rends grâce au Seigneur.
Voilà, vous êtes dans ce studio pour nous parler de la nuit de l'indépendance. Nous savons très bien que cet événement, vous êtes son promoteur, bien sûr. Alors, nuit de l'indépendance, 2024, c'est bien sûr le 26 avril prochain, dans la nuit, bien sûr, à l'heure de 26 avril prochain. Alors, dites-nous comment les préparatifs se font.
Ok, merci Pascal. Nuit de l'indépendance, c'est un événement national qui rassemble les fils de cette nation, le Togo, histoire de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre pays et de lui confier aussi la nouvelle année. Parce qu'on n'est pas sans savoir que le jour de naissance du Togo, c'est le 27 avril. Et à la veille, nous avons jugé bon de louer le Seigneur pour la vie de notre cher pays, le Togo, et de lui adresser nos meilleurs voeux de la nouvelle année. Mmh. Donc, les préparatifs, ça avance, le Seigneur fait grâce.
Mmh. Alors, cette année spécialement, qu'est-ce qui sera au menu?
Bon, naturellement, comme c'est une soirée musicale de prière, donc il y aura pratiquement 14 artistes invités en lice, avec des groupes musicaux pour des prestations et un temps consacré pour la prière.
Et c'est déjà le déroulement même d'ailleurs de la soirée, comment ça va se faire?
Ouais, comme je le dis tout à l'heure, les artistes vont presser, arriver à un moment donné, il faut présentation parce que je suis jeune, je pratiquement au quotidien, je discute avec mes frères. Aujourd'hui, le jeune Togolais, son espoir, c'est de quitter ce pays. Le jeune Togolais, c'est de quitter ce pays, mais je pense que est-ce que c'est la meilleure solution? Il y a donc qui peuvent avoir cette opportunité de quitter.
Puisqu'il faut être là pour construire le pays.
Oui, bien sûr. Si tu as l'opportunité, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas être l'objectif de quitter le pays. Si nous tous nous quittons le Togo, qui va construire ça pour nous? Donc, c'est de motiver, c'est d'exhorter la jeunesse surtout, parce que la jeunesse est l'avenir de tout un pays. C'est de d'exhorter la jeunesse à avoir foi en Dieu, ok? Et après ça, il y aura un temps consacré pour la prière.
Un temps consacré pour la prière. Et cette année, particulièrement par rapport aux artistes invités, est-ce qu'il y a des artistes qui seront venus alors de l'extérieur?
Oui, il y a une sœur qui est togolaise, mais réside aux USA. Elle s'appelle Sylvie Misso, donc elle sera de retour. Voilà pour cette troisième édition. Il y a seulement cette sœur-là qui sera des nôtres. Voilà.
Et sa prestation, comment est-ce que déjà dans la prestation, il y aura quelque chose de particulier?
Bon, de particulier, ça, je pense que c'est...
Puisque si vous avez fait son choix, ça veut dire que vous avez vu quelque chose de particulier.
Bon, on n'a pas fait son choix, mais elle a été touchée par l'initiative depuis la première édition.
Donc elle a fait plutôt le choix.
Donc elle a fait vraiment un choix d'être des nôtres. À cette troisième édition. Voilà.
D'accord. Alors, quel est ce message que vous allez adresser aux populations de Lomé et ses environs par rapport à cet événement qui est à 16e édition?
Bon, ce que je peux dire est que nous sommes tous des Togolais et l'avenir de ce pays nous appartient tous. Et donc, j'invite la population à faire massivement le déplacement ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi prochain, 26 avril 2024.
Dans 8 jours,
pratiquement. Dans 8 jours, voilà, à partir de 19h, sur l'espérance de CTF Togo 2000. Je pense que c'est un lieu que tout le monde connaît, même mon ami qui est à Jalakpanga même connaît Togo 2000.
Alors, l'entrée, c'est déjà
l'entrée des conditions? L'entrée est libre et gratuite. L'entrée libre et gratuite, voilà.
D'accord. Oui. David, merci d'être passé dans cette émission. Merci, parce que ça fait toujours plaisir alors de vous avoir. Ou bien vous avez encore un mot à
bon,
dire?
Un mot, c'est de laisser un contact.
Justement.
Le plus 228 70 12 12 21. 70 12 12 21. C'est le seul numéro sur l'événement pour plus d'informations. Et le rendez-vous est donc précieux ce 26 avril 2024 à 19h. Ne ratez surtout pas.
Et il y a lieu même aussi de lancer un appel aux partenaires ou aux sponsors.
Justement, parce que Pascal, merci déjà pour ton soutien. Comme je te l'ai toujours dit, l'événement est sans sponsor. Donc je lance également un appel à toute bonne volonté qui désire nous accompagner sur cette troisième édition, parce que organiser un événement de cette taille en plein air, gratuit, c'est pas facile, mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Donc l'appel est vraiment lancé à toutes les bonnes volontés.
Que le Seigneur vous accompagne et que sa grâce soit avec vous pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup David d'être passé dans cette émission.
Merci Pascal, merci aux grands frères qui sont au studio.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes rejoints entre-temps par Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu as bien passé la semaine puisque nous sommes pratiquement à la fin de la semaine.
Oui, bien sûr, avec la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et surtout avec notre fin de recherche de géopolitique. Avec cette campagne qui est lancée, nous aussi, nous sommes dans notre petit coin pour appeler les uns les autres à la tolérance, au patriotisme et au civisme. Vous voyez déjà nos petits visuels qui circulent sur les réseaux sociaux parce que nous sommes profondément dans la défense de la paix, du patriotisme. Et aussi, c'est l'occasion, comme nous savons que par notre histoire, les campagnes, les périodes ont été un peu agitées. Ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts. Et nous aussi, nous voudrions dans cette dynamique pour appeler les uns les autres à faire encore plus d'efforts pour que nous puissions bien prendre notre pays en matière de paix, en matière de civisme, de patriotisme. Toutes ces deux semaines, c'est ce que nous allons faire. Nous prévoyons encore d'autres visuels et nous allons aussi sur les médias, vous nous suivez. Et nous prévoyons d'autres visuels qui vont inonder les plateformes, les réseaux sociaux pratiquement. Sur les médias, ce sera le message de paix que nous essaierons de diffuser ou de faire passer. Et aussi, l'autre travail qui nous attend, c'est après le 29, il y aura les résultats qui vont sortir. Probablement, nous serons peut-être dans une nouvelle république, comme le gouvernement le dit, le ministre Barala, nous avons suivi son intérêt, peut-être nous allons en parler ici. Comme nous allons changer de république, ce sera l'occasion toujours d'aller les uns les autres à plus de patriotisme, plus de civisme. Parce que si nous envions certains pays aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont à un moment donné misé sur le patriotisme. Sans le patriotisme, sans le civisme, on ne peut rien construire. Et on ne peut rien construire dans la violence. Nous en appelons à la non-violence.
D'accord, si beaucoup Firmé. Alors, chers confrères, je voudrais qu'on discute alors de ce sujet, ce premier sujet qui m'intéresse bien, ce sujet que le Canal Indépendant, le journal bien sûr, nous donne ce matin. Et le journal parle de liberté de presse dit déjà à sa une, ou écrit à sa une, liberté de presse, RSF fustige l'expulsion du journaliste Thomas Diedrich. Le journal est en train de parler alors de cet événement que nous avons suivi ces derniers temps. Il y a un confrère français qui est bien sûr alors venu dans notre pays et confrère français bien sûr avec la couverture même des élections, des élections législatives et régionales. Mais on a constaté quand même dit dernier, ce confrère a été arrêté et aussi jugé. Son procès a eu lieu bien sûr et il a été condamné même à 6 mois d'emprisonnement avec sursis bien sûr. Et il a été expulsé même d'ailleurs du Togo. Francisco, je ne sais pas si vous avez suivi cet événement. Et quelle appréciation vous faites alors de cet événement?
Non, en fait, avoir suivi, c'est, je crois, après l'arrestation, l'expulsion, que nous avons appris le problème à travers les réseaux sociaux, que bon, le monsieur serait rentré à partir du Bénin, c'est-à-dire que la frontière Togo-Bénin. Et donc, c'est tellement qu'à la frontière, il n'a pas mentionné qu'il était un journaliste. Donc, il est rentré au pays, je crois qu'il est allé normalement au niveau de la
route. Puisqu'il semble qu'il est venu avec un visa touristique.
Donc, il est normalement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication où il a obtenu une accréditation. Sauf que peut-être que les gens ne connaissaient pas le monsieur, qu'il est un journaliste qui fracasse. Et donc, certainement, après quelques productions, on s'est rendu compte que celui qui est rentré n'était pas chose, donc il fallait le faire rebrousser chemin. Donc, c'est ça qui aurait mis tout cet amada à disposition. Bon, ça a été fait. Donc, il est reparti. Et donc, rentré par un visa touristique. Le visa touristique, c'est quoi? C'est un visa pour quelqu'un qui est en court séjour, pratiquement, dans un pays. Et donc, touristique, il a son passeport. Je crois que les moyens aujourd'hui permettent, quand la personne veut traverser la frontière, de savoir quel métier, puisque le métier n'est pas inscrit visuellement sur le passeport.
Le passeport.
Mais lorsqu'on passe le passeport au scanner, on sait déjà quel emploi, quelle fonction cette personne exerce. Donc, pour le reste, bon. Voilà, mais au-delà, on a vu qu'il y a d'autres mesures qui sont sorties, par exemple...
La suspension de l'accréditation pour des journalistes étrangers.
Oui, étrangers, et aussi carrément, on a changé radicalement les conditions, n'est-ce pas, d'octroi de visa au Togo, parce que dans le temps, qu'est-ce qui se passe quand vous voyagez, vous pouvez arriver à l'aéroport de Lomé, vous prenez votre visa touristique, surtout si vous allez faire moins d'un mois dans le pays, c'est quand vous voulez excéder qu'il faut aller, ou bien arriver à un mois, qu'il faut aller au service immigration, service passeport, pour aller faire d'autres formalités. Mais si ces choses, mais c'est des avantages pour notre pays, parce que je me rappelle, moi j'ai beaucoup travaillé sur... les navires sur les bateaux, et cette facilité que le Togo a offrait, c'est-à-dire à ce que les gens viennent prendre le visa sur notre sol à l'entrée, est un avantage pour les sociétés, que ce soit aéroportuaires, tout, de pouvoir facilement avoir le visa. Et c'est ça le crew change surtout, c'est-à-dire que s'il faut changer des membres d'équipage des bateaux, donc ça permettait d'aller vite, donc les gens choisissent sinon le Togo pour les changements d'équipage des bateaux. Vous savez, c'était revenu pour nos sociétés. D'accord. Maintenant, avec ce changement, ça va aussi empiéter les revenus de certains Togolais.
D'accord. Fumin, c'est vrai que Reporters sans frontières a condamné les conditions dans lesquelles le confrère a été arrêté et aussi jugé. Finalement, ça ne fait pas quand même une bonne image du pays à l'extérieur.
Oui, deux petites choses à faire observer. La première chose... c'est par rapport à l'État. Parce que quand on dit que l'intéressé a été reconnu coupable du délit d'entrée illégale au Togo, ça veut dire que les autorités togolaises ont des éléments qui puissent ou qui leur permettent de juger de cette affaire comme cela avec cet élément. Sur ce point, je ne voudrais pas trop me prononcer parce que vous savez que le Togo est dans une situation un peu bizarre ou un peu compliquée, surtout quand on parle de la situation sécuritaire et tout ça. Donc, toutes les mesures se prennent pour que tout se passe dans une très bonne ambiance, pour que personne ne profite de quoi que ce soit, peut-être pour créer une situation un peu bizarre au Togo. Sur ce point, je ne voudrais pas trop me prononcer. La deuxième chose, la personne est condamnée, mais on ne va pas. On me dit qu'il y a des gens qui ont du mal à m'écouter.
Oui, justement, il faut justement parler dans le micro.
Mais je parle dans le micro. La deuxième chose, c'est que peut-être, c'est ce que je dis souvent, les gens ne vont pas comprendre réellement, ou surtout quand il s'agit d'hommes de médias, de journalistes, on ne cherche pas profondément compris à comprendre ce qui est dans le fond du sujet. Du moins, c'est un journaliste à l'extérieur, on dit oui, le Togo fait ci, on condamne tel journaliste et tout ça. Bon, ça me fait, moi c'est ça, du moins où ça écorce un peu notre image, moi ça me fait un peu mal parce que nous défendons beaucoup le patriotisme et nous voudrions que notre pays rayonne de par le monde. Et aussi quand c'est la situation, ces genres de situations surviennent comme cela, on cherche partout à épingler le Togo, à le donner une mauvaise note. Peut-être que le Togo a raison dans certaines de ses actions. Alors grosso modo, ce que je voudrais dire pour conclure à ce niveau, c'est que il faut que chacun, il faut que tout le monde arrive à respecter les règles qui régissent notre profession. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes en étranger ou des rentrées au Togo pour venir faire exercer votre métier ou venir couvrir des événements, vous adressez, vous rentrez de façon légale et vous n'aurez pas de problème.
D'accord. Merci beaucoup, Firmé. Nous sommes rejoints par Olivier Adja. Olivier, bonjour.
Bonjour Pascal Lefsou, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour confrères en studio.
Nous sommes en train de parler de ce confrère français qui était venu alors dans notre pays pour la couverture des élections, mais on a appris, enfin on sait ce qui s'est passé par après, il a été arrêté et jugé même 6 mois d'emprisonnement avec sursis avant d'être expulsé. Alors finalement, quelle appréciation vous faites alors de cet événement?
J'ai deux observations. Le premier, c'est le principe. Le principe en matière de journalisme, c'est que les journalistes sont libres de couvrir ou bien d'assurer la couverture des événements auxquels qui les intéressent, d'accord. Donc, dans tout le monde entier, le Togo accueille des journalistes. Je ne crois pas que Thomas Dietti soit le premier journaliste qui arrive au Togo en tant que correspondant étranger. Et ni pour ces élections-ci, ni pour les élections passées. D'accord, donc, et aussi d'autres pays accueillent des journalistes togolais pour des événements de n'importe quelle nature. D'accord, donc, le principe, c'est que le journaliste est sans frontières. D'accord, dans son métier, dans sa pratique du journalisme, il est sans frontières. Il doit être accepté partout où besoin sera, sauf exception. D'accord. Donc, maintenant, mais ce principe fonctionne avec des critères et des conditions. D'accord. Et pour aussi bien pour le journaliste que pour le citoyen lambda, pour entrer dans un pays, il y a un processus, il y a une procédure et il y a des conditions à remplir. D'accord. Donc, l'une des conditions, c'est d'avoir un visa, etc., etc. Et ajouter au statut du journaliste, c'est d'avoir l'accréditation, d'accord, et c'est partout comme ça. Donc voilà le principe. Et en même temps, l'exception qui suit ce principe, c'est que il s'est coordonné ou bien il y a des conditions qui sont imposées. Donc ce que nous savons de ce dossier et qui a été communiqué officiellement par le procureur de la République, nous avons aussi suivi la position de Reporters sans frontières, c'est que et notre confrère, puisque c'est un confrère, est rentré au Togo sans avoir l'accréditation, d'abord, puisqu'il a fait la demande. Mais lorsque vous faites la demande, vous attendez qu'on vous octroie ou on vous réponde.
Il semble qu'il devait compléter même aussi le dossier par d'autres documents.
Donc voilà les éléments factuels. D'accord. Donc, il n'a pas eu l'accréditation. Bon, supposons maintenant qu'il ait eu le visa. D'accord. Parfois, on peut d'abord reprouver ce visa, c'est-à-dire retirer le visa, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui s'est passé. Seulement, il se fait qu'il y a eu un problème au niveau de la frontière de Elakondi, où il est passé, ou de la frontière Togo-Bénin. D'accord. Donc, on nous dit qu'il y a eu des soucis là-bas et qu'il a été refoulé officiellement. Le communiqué officiel dit qu'il a été refoulé. Mais il se fait qu'il s'est retrouvé à Lomé.
Mais comment ça?
Bon, vous savez, nos frontières, quand même, c'est l'une des plus poreuses au monde, d'accord. Et donc, il s'est retrouvé à Lomé. Et ça aussi, si, bon, c'est officiel, donc je ne veux pas dire si c'est avéré, parce qu'on peut toujours chercher la vérité, où est la vérité, où est le mensonge. Mais ce qu'on nous a confié comme information, c'est qu'il est rentré à Lomé. Et à Lomé, il a fait une vidéo.
Et c'est après la publication de cette vidéo, oui, donc, qu'on a commencé par constater à Lomé.
Pour peut-être, moi je ne dis pas ça, mais peut-être démontrer à ceux qui l'ont refoulé que malgré leur décision, le voilà sur le territoire togolais et au chaud, dans un ou bien au frais, puisqu'il fait chaud maintenant, donc au frais, dans un hôtel de la place. Donc voilà ce qui a attiré l'attention finalement des autorités. D'accord. Donc, qui sont intervenus et qu'ils accusent d'entrée illégale sur le territoire national, puisque c'est puni par la loi, et aussi d'autres faits. Maintenant, l'analyse que je fais, c'est d'abord, si j'étais à la place de Thomas Dietrich, je me réserverai de venir au Togo. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est engagé et qui s'intéresse à l'actualité togolaise. Mais au même moment, la posture par rapport au Togo ou aux autorités togolaises ne me donnait pas le courage à moi personnellement de venir. Puisqu'il y a quand même des diatribes, des attaques, si bien que c'est comme si j'accepte de venir me jeter dans la gueule du loup. Ça, c'est un élément, parce que vous savez, lorsque vous attaquez de façon personnelle et sous la ceinture contre quelqu'un, attendez-vous qu'il réagisse quand vous le rencontrez. Ça, c'est humain. Mmh. D'accord? Donc, ça, je vais terminer sur ça. Mais Thomas Dietrich lui-même, en France, c'est quelqu'un qui est fiché S. C'est quelqu'un qui est fiché S. Un fichier S, c'est des gens qu'on taxe de terroristes, d'accord, en France. Ils ont des catégories de personnes dangereuses. Donc, c'est quelqu'un qui est fiché S. Donc, même lorsque les autorités togolaises peuvent aussi considérer le fait que c'est quelqu'un qui est fiché S dans son propre pays et qui est considéré comme un terroriste, bon, je ne sais pas quel type de terroriste on l'accuse, mais c'est son pays qui l'a fiché S, ce n'est pas nous au Togo. D'accord. Donc, tout ceci étant dit, je crois que la sagesse aurait voulu qu'il fasse... S'il était sur le territoire, il aurait pu s'abstenir de certaines sorties médiatiques.
D'accord, merci Olivier. Alors, le confrère était à Lomé pour la couverture des élections, bien sûr. Et nous savons que la campagne électorale a débuté depuis un temps, depuis le samedi dernier. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à une semaine alors de cette campagne. Francisco, quelle est l'appréciation que vous faites alors de cette période, ou du moins de ces moments de campagne électorale que nous venons alors de passer?
Tout d'abord, permettez-moi de mettre encore un peu de bémol dans ce qu'il a dit. Et le communiqué a bien précisé qu'il est rentré par un visa touristique. Ça veut dire qu'il n'est pas passé par le feu, le mono, tout ça là pour rentrer. C'est pourquoi je dis que normalement, nos passeports, même vous aussi, si vous voulez voyager, même à partir de l'aéroport de Lomé, même une des frontières, je sais que vous serez retardé pour un moment pour qu'on vérifie s'il faut vous laisser partir. Ça, il faut vous le mettre en tête. Donc, bref, le communiqué n'a pas dit que la personne est venue par... Peut-être qu'il n'a pas déclaré sa fonction. Il dit qu'il y a les process. Quand on passe le passeport au scanner, on sait systématiquement de qui on a affaire. Donc,
d'accord, revenons maintenant à la question lors de la campagne électorale.
Pour la campagne, on est en train de suivre. Moi, déjà, le vendredi dernier, aussitôt après notre émission, moi, j'étais parti à Takpamé. Mm. Et c'est de là que j'ai vu samedi comment la campagne a démarré. Ceux qui ont les moyens, c'est avec la caravane. Et ceux qui, surtout les indépendants, c'est d'abord le porte-à-porte. Et j'ai vu aussi, quand je suis revenu à Lomé le lendemain, j'ai vu également que, en fait, dans la ville de Lomé, il y en a qui font les caravanes. Il y a des émissions qui se déroulent bien. Et puis, le porte-à-porte, les feux tricolores. La dernière fois, j'ai vu le FDR au niveau des baies avec leurs responsables. Bon, en fait, je peux dire que tout se passe bien. On a les échos du pays. On a au niveau de Kualimé avec la ferveur de Trump, le Trump de Kualimé.
C'est qui le Trump de Kualimé?
Il se connaît jusqu'à Dapaon et autres. Donc, bon, vous savez, que ce soit à l'unir, indépendant ou dans l'opposition, nous avons pratiquement beaucoup d'amis qui sont sur le terrain, mais je peux dire que les choses se déroulent pas mal. On n'a pas en tant que tel des incidences. Hier seulement, on nous rappelait qu'au niveau de Bassa, et que le parti Unir voulait usurper l'identité de la DMP. Donc, ils se sont même retrouvés à la justice avec Naboudia. Ils ont convoqué chose parce que les gens disent que nous sommes du même parti, c'est-à-dire que voilà. Donc il y a eu ça que j'ai eu comme incident, et puis
Non, mais comme incident aussi, là, il y a la force sécurité élections législatives et régionales 2024 qui a fait un bilan mi-parcours. Ouais, et ouais. Dans ce bilan mi-parcours, il a signifié quand même, elle a signifié cette force, bien sûr, que déjà pour les incidents, on a deux morts déjà pour cette campagne. Oui. Et il y a des blessés.
Oui, pour ils ont parlé de deux convois ou bien de deux caravanes qui ont failli se croiser, ça a failli dégénérer. C'est des choses que nous déplorons. Comme je l'ai dit, moi personnellement, j'ai des amis, j'ai des parents, que ce soit à l'UNIR, que ce soit dans l'opposition ou des indépendants. Donc j'essaie de faire le milieu, ce n'est pas parce qu'il y a campagne que je ne peux plus échanger avec qui que ce soit. Donc souvent quand ces choses de caravanes veulent se croiser, ça peut se faire. Et on n'a vu même pas le passé où il y a des caravanes, je crois en 2010, qui passaient, qui s'applaudissaient, arrivaient, ils dansent.
Et des gens qui s'embrassaient.
Qui s'embrassaient. Donc il faudrait que le Togo... les partis politiques sensibilisent davantage les militants. Mais là, ce qu'on appelle les accidents de la circulation, et aussi, il faut exhorter les partis politiques qui mettent les motos dans les rues et des voitures. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Ce qui a aussi à préciser que la mesure IARC tient. C'est-à-dire que le casque, les gens sont respectueux vis-à-vis du casque maintenant. Au niveau de la conduite et surtout les voitures, il faut que les gens évitent les vitesses. Et ils évitent également l'alcool. C'est ça aussi qui amène à la vitesse excessive qui, malheureusement, amène à la mort. Paix à l'âme des disparus.
D'accord.
Et que les prompte guérison aux blessés.
Les moments de campagne doivent être alors des moments de fête, comme on a l'habitude de le dire. Mais allez, quand on voit qu'il y a déjà deux morts et des blessés, allez, ça inquiète.
Oui, oui, ça s'inquiète. Mais on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. On ne devrait même pas arriver à ce niveau. Et parce que le Togo a fait assez d'efforts ces dernières années, surtout sur le plan électoral et pendant ces campagnes-là. Donc, on ne dénombre pas plus de morts. On peut peut-être parler de blessés, mais aller jusqu'aux morts, je pense qu'on a déjà dépassé ça. Donc, je pense que la démocratie, ça a un prix, ça a un coût. La démocratie, c'est laisser l'autre s'exprimer librement. La démocratie, c'est la diversité d'opinion. Donc, celui-là qui a d'autres idées que moi, ce n'est pas mon ennemi. C'est sa manière de voir les choses. Mais nous avons un dénominateur commun, c'est le Togo. Nous voudrions bien que le Togo se porte bien à l'avenir. Nous voudrions avoir un Togo bien développé. Nous voudrions avoir un Togo bien dans le Conseil des Nations. Nous voudrions avoir un Togo qui rayonne de par le monde. C'est ça notre ambition. C'est l'ambition de ceux qui sont au pouvoir et c'est l'ambition aussi de ceux qui sont opposants. Donc, on n'a pas besoin de s'affronter en cette période de campagne. C'est pour cela que nous insistons véritablement sur la paix et le patriotisme. Nous prions vivement que les choses se déroulent bien. Parce que quand vous suivez la télévision nationale, le soir, vous voyez toute l'ambiance qui est dessinée là, et c'est joli, c'est beau. Donc on ne peut qu'encourager ça, et quand vous allez aussi à l'intérieur, vous voyez tout ce qui se passe, donc on ne peut qu'apprécier ça. Donc nous prions vraiment Dieu de nous assister, comme le général Yaka a l'habitude de dire, c'est Dieu qui assure la sécurité, alors que ce Dieu là qui nous écoute, qui nous a créé, assure la sécurité de tous les Togolais.
D'accord. Olivier, c'est vrai que quand on regarde un tout petit peu le tableau de cette campagne électorale, on voit que beaucoup de couleurs sont dans la rue et ça fait vraiment plaisir de regarder ces couleurs. Ça veut dire, ça participe même d'ailleurs à la vie démocratique de notre pays, bien sûr, mais arriver jusqu'à ce que, du moins, c'est qui s'en sortent alors des morts, je pense quand même que ce n'est pas aussi quelque chose qu'on doit apprécier.
Oui, mais avant ça, j'ai le communiqué du procureur puisqu'il en a parlé. Et le deuxième chapitre, le mercredi 10 avril 2024, autour de 23h, il s'est présenté, M. Thomas Détiche, au poste frontalier de Sanvikondi venant de Cotonou, afin d'entrer en territoire togolais. Ayant retrouvé son dossier d'outil, apparaît qu'il n'avait pas obtenu l'accréditation de la HAC, les agents de l'immigration lui ont refusé l'entrée au Togo. Ça veut dire tout simplement que, qu'il soit détenteur d'un visa ou pas, l'entrée a été refusée. Donc, s'il se retrouve alors à Lomé, c'est que il s'est retrouvé illégalement puisque l'entrée lui a été refusée. Donc, cette parenthèse est déjà fermée. Et pour la campagne électorale, j'estime que jusqu'ici, de une semaine après, puisque demain, ce sera une semaine exactement, et les choses se passent plus ou moins bien. Parce que nous, on a craint, vu l'atmosphère dans laquelle la campagne a démarré, avec la question de la révision constitutionnelle et les appels de l'opposition à manifester la tension que cela a créée, il faut reconnaître qu'il y avait une certaine hantise sur le déroulement de la campagne. Et voilà, donc aujourd'hui, j'estime que globalement, les choses se passent bien, que la campagne se déroule de façon paisible. Maintenant, les mots, il faut dire que c'est essentiellement arrivé par accident. Ce n'est pas à la suite d'affrontements entre camps opposés ou voilà donc militants de partis politiques. Non, ce sont des accidents de la route. Et là, il faut plutôt en appeler aux formations politiques qui drainent leurs militants ou des populations sur des lieux de campagne à faire attention parce que ce sont des vies. Donc, il faut d'abord faire, ce sont à eux de nous donner l'exemple du civisme dont nous demandons sur les routes, d'éviter la vitesse, de respecter les feux de signalisation, etc., etc. Parce que nous ne transformions pas les moments de campagne en période de deuil pour des familles. Parce que ceux-là qui sont décédés sont sortis de la maison et en promettant de revenir. Et pour donc cette campagne, ils ne vont plus revenir. Ce n'est pas par faire de troubles ou de heurts entre les militants, mais c'est les accidents. Donc je crois qu'il y a un problème. Maintenant, globalement, moi j'estime que tout se passe bien. Et le vœu, c'est que nous puissions maintenir cette atmosphère jusqu'à la fin de la campagne, le jour de l'élection et au-delà, le jour de la proclamation des résultats, parce que les moments difficiles se situent surtout entre les périodes d'élection et la période des proclamations des résultats, une période qui amène certains candidats à ne pas accepter les résultats des urnes et donc à manifester ou à jeter leurs militants dans les rues.
C'est vrai que les députés sont appelés à la plénière ce matin et c'est vrai qu'il y a la campagne également qui se poursuit, la campagne électorale bien sûr qui se poursuit, mais les députés aussi qui sont en plénière. Alors Francisco, est-ce que vous arrivez à comprendre que parmi même ces députés il y a des gens c'est également qui sont candidats mais au même moment qui se retrouvent maintenant en plénière et, tandis que d'autres sont sur le terrain?
Ouais, vous voyez, on le disait depuis, tous les timings sont faussés. Nous, on le disait que ces élections ne devaient même pas avoir lieu. Il fallait les renvoyer en 2025. Mais semble-t-il que c'est lui.
Mais il y a un calendrier électoral à respecter.
Oui, ben, ils ont déjà faussé. On dit que l'élection doit avoir lieu un mois avant la fin du mandat. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé rentrer. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du quatrième mois. Oui, donc c'est déjà une grosse anomalie. Et donc, pour corriger tout ensemble, c'est ce que nous, on proposait. Donc maintenant, quand vous voyez tous les termes, présentement même, nous sommes en saison pluvieuse. Donc, ceux qui ont choisi la période, ils l'ont mal choisi. Et donc, les députés présentement sont à l'Assemblée nationale. On nous a signalé que ce matin, ils sont à l'Assemblée nationale pour la relecture de la loi. Quelqu'un nous a dit, sinon Gilbert Bawara sur RF et les médias internationaux,
TV5 Monde,
a confirmé que les chiens aboient, la caravane passe, donc le texte sera voté. Donc, on attend de voir, mais moi, j'estime qu'il n'y a pas urgence parce que et même l'ancienne constitution, c'est-à-dire que de la 4e République, prévoyait le Sénat. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est que ce Sénat n'avait pas été mis en place. Donc, ce qui veut dire que les deux chambres aujourd'hui, qu'on est en train de vouloir élire, ces deux chambres ne sont pas fortement liées à cette nouvelle constitution de la 5e République. Donc, la Constitution de la Ve peut attendre que les députés qui seront élus, d'accord, après le 29, puissent légalement, n'est-ce pas, s'il y a lieu, revoir ces tests et choses. Donc, bon, mais nous, on ne connaît pas, on n'est pas dans le secret des dieux, mais peut-être que les autres diront mieux.
D'accord. Et Fémé, quelle appréciation vous faites alors de cet état de choses? Je veux bien parler du fait que les députés sont actuellement en assemblée, enfin en plénière, j'allais dire, et au même moment, il y a d'autres également qui sont sur le terrain pour la campagne électorale, bien sûr. Et je disais même d'ailleurs que parmi ces députés, il y a des gens quand même qui sont aussi candidats pour les prochaines élections.
Oui, bien évidemment. Est-ce que tous les 91 députés, on a 91, ce sont tous les 91 députés qui sont candidats? Et donc, même si c'était tous les 91 députés, ce n'est pas à cause de ces 91 députés qu'on va arrêter la continuité de l'État. L'État doit continuer d'exister. L'État, le fonctionnement ou l'existence de l'État doit se poursuivre. Même en pleine campagne électorale, s'il y a des urgences, vous faites appel. Si vous êtes ministre, peut-être y a-t-il, même s'il y a des ministres aujourd'hui sur le terrain, et que peut-être on a besoin d'eux le soir pour une urgence, il y a des ministres peut-être ou non, si on a besoin d'eux pour une urgence au ministère, ils vont descendre, c'est pas parce qu'ils sont en campagne qu'on va pas les appeler. Donc l'État doit fonctionner, l'Assemblée nationale doit continuer de fonctionner. S'il y a une urgence à l'Assemblée nationale, on doit faire appel. On doit faire appel, n'oubliez pas, ils sont candidats, mais ils sont aussi députés. Ils n'ont pas démissionné de leur poste de député.
Puisqu'ils sont en fonction.
Donc, on peut toujours leur faire appel. Même président de la République, écoutez, quand vous êtes président de la République et que vous êtes en campagne, tous les soirs, vous faites, à chaque 30 minutes, vous faites les rapports de comment évolue le pays. Vous êtes président de la République, vous êtes candidat, mais aussi vous êtes président de la République. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes président de la République, que s'il y a quelque chose, s'il y a une urgence, on ne veut pas vous faire appel. Vous devez chaque fois demander des rapports, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des frontières, qu'est-ce qui se passe au niveau des quartiers, qu'est-ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan financier. Vous devez régulièrement avoir les rapports. Donc, les députés, ils ont double, en tout cas, ceux qui sont candidats, ils ont double casquette. Ils sont députés, donc ils continuent d'être députés et ils sont aussi candidats. Si au niveau de leur candidature, si au niveau de la campagne on a besoin d'eux, et que l'État aussi a besoin de, c'est-à-dire l'Assemblée a besoin d'eux, donc ils vont descendre et faire ce que l'Assemblée leur demande et retourner sur le terrain. Donc il n'y a rien d'illégal, donc il n'y a rien d'anormal.
Olivier, c'est vrai que, allez, quand on suit même les propos alors du ministre Bahara, on a et même d'ailleurs fait écouter un extrait de ses propos hier, ici dans cette émission Club de la Presse, hein, par rapport même au fait que, allez, est-ce que déjà avant le 29, est-ce que la nouvelle loi fondamentale puisse être vraiment adoptée, promulguée? Il a dit qu'il y a possibilité. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même que déjà avec cette plénière des députés, alors les choses vont aller très vite?
Non, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Parce qu'on ne convoque pas les députés pour leurs beaux yeux, on les convoque pour un travail, et surtout en période électorale ou en période de campagne, lorsqu'on fait revenir les députés qui étaient sur le terrain, ce n'est pas donc pour voir leur beauté, d'accord, c'est pour qu'ils puissent faire un travail. Bon, la question se pose toujours sur l'opportunité de la proposition et de ce vote-là. Mais il faut faire la différence entre la légalité et l'opportunité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces députés sont toujours en fonction. D'accord? Ils restent députés jusqu'à... Voilà, donc on ne va plus reparler de l'article 52 de la Constitution. Donc, de façon légale, ça passe. Mais ça pose en même temps des questions. Et les gens l'ont dit, qu'est-ce qui urge pour que, voilà, donc, on veuille coûte que c'est ce Parlement qui puisse faire cette réforme-là. Parce qu'on sait qu'il y a un nouveau Parlement qui arrive et les 7 députés-là pourront donc continuer l'œuvre commencée par ceux qui sont sortants. Et peut-être le parti au pouvoir craint le fait de ne pas avoir la majorité absolue dans le prochain Parlement, peut-être. Mais je serais étonné que le Parti Uni n'ait pas la majorité absolue. Je serais étonné. Donc, voilà la question qui se pose. Mais il faut faire la différence entre la légalité, ce qu'ils sont, ils sont en train de faire, c'est bien légal. En tout cas, les experts l'ont dit que c'est légal. Maintenant, et l'opportunité, et puis voilà donc le timing de cette réforme.
Oui, je peux répondre.
Oui,
je ne sais pas ce qui urge, mais cela peut-être va engendrer des coûts. Parce que si on laisse passer les élections et que c'est après les élections, après les résultats, qu'on adopte la nouvelle constitution, mais vous devez savoir qu'on devra dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que ce sera dans un régime parlementaire. Vous imaginez? Donc, si on va aux élections actuellement avec les résultats, avec des résultats, et que du jour au lendemain, on adopte, on change de république, mais n'oubliez pas, on va être obligé de dissoudre le Parlement. Donc, si on dissout le Parlement, ça veut dire qu'en réalité, il y a une certaine, je ne dirais pas une cacophonie, mais c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui seront remises en cause. Donc, on dissout le Parlement, donc on va faire appel encore aux députés, au corps électoral, pour se conformer à la nouvelle Constitution. Donc, c'est pour moi, je pense, à mon sens, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense, c'est ma manière de voir les choses.
D'accord.
Donc, finalement, parce que, si, c'est une question.
Oui, Olivier.
De profane. Finalement, si on avait le Sénat sans le régime parlementaire, on sera obligé de dissoudre le Sénat aussi. C'est-à-dire, on ferait les élections, c'est les élections régionales.
Et si c'est qu'on avait le Sénat ?
Si on avait le Sénat, il fallait alors dissoudre aussi le Sénat au même moment. C'est pas bon, en ce moment, je n'en sais rien.
D'accord, c'est une question que vous posez. Francisco, finalement, oui, la question que nous nous posons depuis longtemps, c'est que mais qu'est-ce qui urge, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui pour que du moins on aille rapidement à cette nouvelle constitution, et tandis qu'il y a déjà les élections législatives qui sont là devant nous et qu'on peut facilement donner l'opportunité à cette nouvelle législature à le faire.
Non, je l'ai bien dit tout à l'heure, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, c'est ceux qui sont en train de manager cette nouvelle constitution seuls. Et qui savent, tout à l'heure, Olivier Adja vient de dire que c'est impossible que le parti au pouvoir n'ait pas la majorité dans la prochaine assemblée. Et d'accord. Donc, qu'est-ce qui urge ? Donc, ce qu'on doit désormais faire, ce n'est pas parce qu'on a prêté le flanc ou bien on a donné une certaine, soi-disant, opportunité, soit à son opposition, et en rallongeant peut-être et une durée ou en violant les tests, et ici et là, je vais vous dire. Et quand vous prenez, par exemple, la loi sur la décentralisation, mais la loi sur la décentralisation qui avait été votée exige un domicile au premier dirigeant, par exemple, d'une localité. Et c'est dans les tests qui ont été votés. Mais ça a été voté après. Mais tout le monde a violé, c'est-à-dire que ce soit les maires issus de l'opposition ou du se sont entendus vous mettre, n'est-ce pas, certains articles de cette loi de côté. Vous imaginez? Donc, l'opposition aussi, parce qu'on leur fait du bien. Par exemple, quand pour justifier cette prolongation, c'est-à-dire le non-respect des délais constitutionnels, et par exemple, et la prolongation qui a été donnée à l'Assemblée, les gens disent oui à telle année, et voilà, le mandat était fini, et avec l'opposition, et la dernière fois on a lancé un os en disant qu'on porte par exemple le nombre de députés de 91 et à 113, et bon, au lieu que l'opposition se lève et la société civile dit que ce n'est pas normal, il ne faut pas le faire. Mais ils se sont mis complaisants, sinon composants, et ça a été fait. Donc, dans le délai qu'on dit illégal. Donc, du coup, l'illégalité a continué. Oh, la loi dit d'organiser les élections. Quand les élections n'arrivaient pas, il fallait se lever pour exiger. Vous avez vu le Sénégal, ce qui s'est passé. Macky Sall, quand il a été contraint, qu'il doit quitter le 2, parce que le compte à rebours, le Conseil constitutionnel, dit qu'il ne doit plus faire être à la présidence, les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? On a écouté le temps de la campagne présidentielle. Ah oui, c'est ce qu'on appelle respect des lois qu'on se donne. Mais ici, on voit des autorités, des juristes, pour dire oui, que c'est parce que la dernière fois, j'ai volé, on ne m'a pas arrêté, donc je continue de voler. Non, il faut qu'on se qu'on respecte notre... Parce qu'aujourd'hui, le Togo est en train de faire la risée du monde. C'est en train de faire la risée du monde parce que c'est un pays typiquement particulier que nous sommes en train de vivre. D'accord. Vous êtes de la presse, nos confrères, que de l'extérieur, il y a beaucoup qui vous aident. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est quel village? Donc, en fait, moi, ce que je souhaite, ce que je veux pour le Togo, c'est que au moins les tests qu'on se donne là, qu'on les respecte.
D'accord. Olivier, c'est vrai que jusqu'à présent, personne n'a expliqué pourquoi les élections n'ont pas été organisées dans les délais appropriés, c'est-à-dire le 30 jours avant, même, comment l'appelle-t-on, la fin du mandat des députés.
Absolument. Toi et moi, on ne le sait pas encore. Et de toutes les façons, même si on devait faire cette révision constitutionnelle, on aurait pu le faire dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire au cours des mandats, avant la fin du mandat des députés, c'était aussi possible. Hein. Ce n'était pas extraordinaire. Ça aurait été possible de faire cette révision au cours avant la fin, c'est-à-dire avant fin décembre, mois de décembre 2023, d'accord. Donc, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui s'est passé. Mais il aurait au moins été bien fallu que le gouvernement, les autorités togolaises puissent informer l'opinion. Parce qu'une élection, c'est d'abord est inscrite dans le calendrier constitutionnel donc, de notre pays. Et s'il y a un problème, il doit y en avoir, ou un décalage, il doit y en avoir, il aurait été normal qu'on puisse informer l'opinion de ce problème et de la nécessité de recaler ou de décaler plutôt la date des élections. C'est vrai, on peut s'appuyer sur l'article 52, c'est un article vraiment qui est bizarre, mais qui en sauve toujours. D'accord? On peut s'appuyer sur cet article, dire bon, même si on n'a pas organisé des élections, ce n'est pas grave parce que les institutions sont en place. Oui, mais quand même, il aurait fallu, on peut faire les choses dans le temps et dans les normes. Moi, j'estime cela. Mais je vais ouvrir mon développement sur un point de logique que moi, je ne trouve pas au niveau de l'opposition et qu'il m'excuse, mais ce même Parlement, c'est-à-dire ces mêmes députés, hors délai, ont pris des actes qui ne sont pas forcément, qui concernent pas forcément la Constitution. Ils ont fait des lois. Ils ont, voilà, donc, élu des membres des institutions. Ils ont posé beaucoup d'actes. Mais il semblerait que l'opposition ne s'intéresse que à l'acte constitutionnel. En oubliant que ces actes aussi font partie vont rentrer dans notre arsenal juridique du pays, je veux dire. C'est-à-dire que ça fait confusion. Ce n'est pas ni logique et ce n'est pas, c'est-à-dire ça ne suit pas une certaine façon de faire.
Oui, Olivier, là, c'est que l'opposition dit que mais quand on parle alors de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, que mais il faut plutôt alors des procédures pour toucher cette Constitution.
Pas que. Puisqu'on dénie, ou du moins on remet en question la légitimité de ces députés parce qu'ils sont hors délai. D'accord. Donc, ces députés qui sont hors délai vont réviser ou vont voter la révision de la Constitution. C'est les mêmes qui ont élu les membres de la AK, c'est les mêmes qui ont élu les membres de la CNDH, c'est les mêmes qui ont pris d'autres lois il y a quelques mois de cela, quelques semaines. Donc, moi, je serai à leur place et tout ce que je vais dénoncer, tout ça en bloc. Je ne vais pas faire de choix parce que c'est comme en élisant les membres de l'institution qui est la AK. Ils étaient légitimes et en s'attaquant à la révision constitutionnelle, ils ne sont pas légitimes. Alors, c'est les mêmes personnes et qui sont toujours hors délai. Et aussi, l'élection qu'on organise actuellement, les élections législatives qui vont nous conduire, peut-être, et mon confrère Firmé l'a dit, peut-être dans une nouvelle république ou prochainement, la cinquième, c'est ces députés-là qui sont en train de faire ce travail. Donc, normalement, s'ils refusent de ne pas accepter la révision, ils auraient aussi refusé de ne pas même participer à ces élections qui vont nous mener à la 5e République de toutes les
façons. D'accord. Firmin, est-ce que vous trouvez aussi d'incohérence par rapport à ce que Olivier dit, c'est-à-dire incohérence au niveau alors de l'opposition?
Est-ce que c'est une question d'incohérence ou je ne sais pas, ou c'est une question d'opportunisme politique? C'est la question que je me pose, parce que moi, je me demandais si on n'était pas fatigué de ce débat-là, à être en fonction, ainsi de suite. Et moi, je me dis que les gens juste surfent sur cet article de la Constitution pour se tailler une place sous le soleil, parce que c'est même personne qui crie. Ils en ont profité allègrement en 2000, pendant un an, de 2012 à 2013. Et le Parlement fonctionnait normalement. On n'a jamais dit qu'ils étaient des députés illégaux. On n'a jamais dit que les actes qu'ils avaient posés à l'époque étaient des actes illégaux. Ils ont fonctionné, ils ont géré leur point de pouvoir pendant un an.
Mais parce ils n'ont pas changé de constitution.
Non, arrêtez. La constitution, c'est quoi? La constitution, c'est aussi un acte législatif.
Mais fondamental, la loi. Mais
fondamental. Donc, on va dire que bon, les actes. Donc, on va mettre dans la constitution que bon, pour des actes qui ne sont pas fondamentaux, les députés qui sont en place. Hors délai, peuvent légiférer par rapport à ces actes pour des actes non fondamentaux. Donc, on va attendre une nouvelle législature. En fait, c'est une interprétation. Chacun essaie de faire l'interprétation qui lui convient le mieux. C'est tout. Sinon, en réalité, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, en mon sens, je pense qu'on devrait être fatigué de ce débat-là. La République doit avancer. Vous savez, le droit, quelque chose de bizarre. Le droit, si la manière ou les interprétations, ça peut vous arranger aujourd'hui et demain, ça peut ne pas vous arranger.
Ça dépend de l'interprétation.
Ça dépend de l'interprétation. En 2012-2013, ils ont interprété comme la Constitution l'a dit et ça les a arrangés aujourd'hui. Comme ce sont eux qui sont à la même place, ils disent que non, qu'en réalité, l'interprétation là, ça, c'est pas bien. Donc, je pense que c'est de l'opportunisme politique que nous sommes en train de faire. Il faut que la République avance. Il faut que la République avance. On dit, les 7 députés restent en fonction jusqu'à la nouvelle législature. On dit, reste en fonction, il n'y a pas d'affaire courante ou pas. On dit, reste en fonction et puis c'est fini. Donc, par rapport à la Constitution, je pense aussi que c'est un autre débat. Je pense qu'il faut y sortir. On a reproché la démarche à ceux qui ont émis l'initiative. Ouais, mais ils ont essayé de corriger. Ils ont essayé de consulter des gens à peine au référendum. Bon, on n'est pas allé au référendum, mais toujours est-il que peut-être...
On n'est pas encore allé, puisque ce n'est pas encore tard.
Oui, on n'est pas encore allé, bien sûr. On n'est pas encore allé. Chacun essaie d'interpréter à sa manière. Okay. Sinon, en réalité, la République doit avancer.
D'accord, oui, Francisco.
Mais oui, la République doit avancer, mais il faut que la République avance bien. Qu'on ne prenne pas des erreurs pour corriger des erreurs. Et ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'apprendre à cette génération et à la génération future l'éthique politique. C'est un minimum. D'accord ? Maintenant, quand nous prenons ce qui a été fait la dernière fois pour dire qu'on est en train de corriger, on est allé vers les gens, on a dit on veut un régime parlementaire à la place d'un régime semi-présidentiel. Qu'est-ce que les gens connaissent sur la forme de ce régime parlementaire ? Même les chefs avec qui les gens sont et les groupes organisés. Ils ne savent même pas le contenu du texte. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous en parlons. Bien sûr que les gens disent qu'il y a des formules ou bien des papiers qui défilent sur les réseaux sociaux. Mais écoutez bien, la dernière fois, un de nos confrères a eu un problème pour avoir utilisé un document qui est tombé dans le domaine public pendant des mois. Et quand on l'a pris, on l'a demandé, je parle de la dépêche, d'apporter le papier. Il a trouvé sur les réseaux sociaux comme la constitution que les gens sont en train de défendre. Mais si vous prenez cette constitution, vous ne commencez pas à travailler. Mais on peut également vous prendre comme ce qui s'est passé de l'autre côté.
Puisqu'il n'y a pas l'authenticité.
Mais il n'y a pas l'authenticité. Donc nous, comme ça, on ne peut pas nous prendre comme les moutons de Parnuge. Et Firmin, je suis offusqué quand j'entends même Firmin parler, défendre des choses qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, je me pose une question.
Prenons
cette nouvelle constitution qu'on nous dit que, par exemple, le chef de l'État doit désigner un certain nombre de sénateurs. Et ces sénateurs vont composer les gens qui vont les lire. Je ne sais pas si c'est qui vont lire le chef de l'État, qui vont lire le chef du conseil.
Le président du conseil.
Je pose une question. On dit que le président du conseil, par exemple, c'est le président du conseil.
Non, c'est plutôt le président de la République qui élit le président du conseil.
Du conseil.
Pardon? Qui est élu, le président de la République
qui élit, nomme.
Qui nomme. Qui nomme le président du conseil.
Ce qui est chef
mais
du
le
parti
président
du,
de la République est élu. Par les deux chambres réunies.
Et maintenant, après le cadeau au président de la République, il nomme le président du Conseil, puisque c'est le président du Conseil qui, n'est-ce pas, qui forme. C'est-à-dire qu'on est en train de voir des choses. Là, le truc était simple. Constitution de la 4e République, qui a été même améliorée, c'est un document simple. Même qu'on n'arrivait même pas à respecter. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on va dans la complexité où on ne sait pas si, attendez, quand ils vont voter cette loi, peut-être je ne sais quand, peut-être avant les prochaines les élections.
Peut-être aujourd'hui, puisqu'ils sont, ils sont en plénière.
Oui, quand ils vont le voter, ils vont se réunir, n'est-ce pas ? Les députés, qui, quand ils vont voter cette constitution, est-ce que ça veut dire qu'en même temps, ils vont élire le président du Conseil et le président de la République ?
Mais il faut la promulgation.
Je ne sais pas. Attendez. Oui, pour la promulgation. Maintenant, quand la promulgation va arriver, qui sera ce président du Conseil qui va nommer et qui sera ce président du Conseil qui va nommer les sénateurs ? Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que vous êtes en train de rentrer dans un piège. Les gens sont en train de se faire des coups. Je dis que si aujourd'hui, nous organisons ces élections, c'est-à-dire qu'on vote le président et on vote et cette constitution de la 4e République.
La 5e.
De la 5e République.
Voilà.
D'accord ? Ça veut dire que le président peut-être a 9 jours ou 10 jours pour promulguer. Il promulgue avant, je crois, le 29.
Le 29, oui.
Ça veut dire que ça rentre en jeu. Mm. Est-ce que le Parlement que nous avons va se réunir pour élire le président du Conseil ?
Non, je pense que ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer plutôt à la liste, à la
prochaine législative. Oui, maintenant, la législative qui vient, la législative qui va arriver, on aura les quoi régionaux et les élus et
oui, les élus régionaux et les députés.
Et les députés. Oui. D'accord ? Mais comment on va former le Sénat ? Qui va nommer ? Voilà, non, je suis en train de vous poser des questions techniques.
Mais attends, qui va nommer ? C'est pas nous qui avons
nommé. Non, mais je pense que oui.
Non, mais je pense que moi, je vais dire deux choses. Vous savez, bien sûr que peut-être des gens ne sont pas d'accord avec le régime parlementaire ou d'autres qui sont pour le régime semi-présidentiel. Vous savez, nous sommes dans ce que nous appelons la démocratie. Il y a, même si Francisco Napokoura n'est pas pour le régime parlementaire, mais il y a des gens qui ont eu l'initiative de mettre sur la place publique leur choix ou leur affection par rapport au régime parlementaire. Ça, c'est ça la démocratie. De plus, il y a des gens disent qu'aujourd'hui, il y a des gens disent des gens disent que vous savez, pour le régime parlementaire, on n'a pas encore tous les éléments. Bon, la population ne connaît rien par rapport au régime parlementaire. Vous allez me dire aujourd'hui, ça fait déjà plus de 30 ans que nous avons la constitution de la 4e République. Est-ce que tous les Togolais connaissent le contenu de la constitution de la 4e République? Je ne pense pas. Vous allez même aux États-Unis. Est-ce que tous les Américains aujourd'hui, plus de 300 millions d'habitants, peuvent vous dire exactement tous les articles que contient leur constitution? Je ne pense pas. Vous allez en France, 60 millions d'habitants. Est-ce que vous savez ce que 40 millions de Français savent qu'ils sont dans un régime parlementaire ou présidentiel? Non, je dis, en réalité, vous savez, cette histoire de constitution, c'est une question d'élite. La plupart des millions de concitoyens peuvent ne pas maîtriser le contenu. La meilleure des choses, c'est on fait juste appel à la bonne foi, à la bonne gouvernance. Si un camp dit « nous voulons un régime semi-parlementaire », l'autre dit « nous voulons un régime semi-présidentiel », on va au Parlement et on passe au vote.
Je pense que ce qui intéresse plus alors les citoyens, c'est la bonne gouvernance. Et donc, nous allons arrêter là par rapport à ce débat. Et maintenant, nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils sont nombreux à l'écoute. Ils vont poser des questions ou bien ils vont avoir aussi leurs observations par rapport à tout ce que nous avons dit ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons à vous. Maintenant, vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 315. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour le plateau, Didier.
Oui, Didier, comment vous allez?
Ça va.
D'accord, allez-y.
Bon, j'avais demandé la dernière fois si vous avez la constitution de le déposer à Canal pour que je puisse venir chercher, mais je n'ai pas eu de réponse là. La nouvelle constitution que vous êtes en train d'écrire là. Bon, et puis je voulais vous demander aussi là, c'est le pays que vous voulez laisser à vos enfants Et puis j'ai posé une question la dernière fois. Pourquoi on finit? J'ai posé une question la dernière fois qu'on a essayé de. Vous n'avez pas répondu, vous avez feinté. Comme vous dites que le, même les députés en fin de mandat peuvent légiférer pour changer une constitution, je demande, hein, donc ce qui me dit, si je comprends bien, dans les députés, si le président dissout l'Assemblée, les députés peuvent dire non, quand on n'a pas encore fait les élections, nous sommes toujours en place, ils refont une autre constitution et ils redestituent le président. Je ne sais pas si vous avez compris, peut-être si vous avez, je vous explique bien. Vous avez compris?
Oui, allez-y.
Si, par exemple, le président Kriva dit que même les députés peuvent, même en fin de mandat, ils peuvent légiférer tant qu'ils peuvent continuer leur mandat, leur mission. Donc, si le président destitue l'Assemblée, donc ça, les députés ne sont plus, les députés ne sont plus, ne sont plus en fonction, mais ils légifèrent. Ils peuvent dire non, comme on n'a pas encore fait, on n'a pas encore élu nos députés, nous on refait notre constitution. Et mais dans cette constitution, ils redestituent le président. Donc, c'est normal, ouais, le désordre que vous êtes en fait dans ce pays.
D'accord, allez, merci beaucoup, Didier. Oui, bonjour, merci, bonne journée, Didier. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Et je vous prie alors d'être courtois, hein, dans tout ce que vous allez dire. C'est très important. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
Abdel.
Abdel, vous nous appelez d'Agoué.
Bien sûr.
Voilà, allez-y.
Alors, entre-temps, j'exhortais l'opposition à saisir l'occasion que l'Assemblée, que le président demandait à l'Assemblée de consulter la classe de l'opposition, à saisir cette occasion pour parfaire la proposition de loi. Pourquoi je le disais? Nous assistons toujours à quasi-répétition des crises d'une façon... Vous savez, quand on est sur le terrain politique, c'est différent d'être sur le terrain de relations humaines. Le terrain politique, c'est comme un terrain de football. Vous êtes, Pascal, vous êtes l'équipe A et vous êtes ami à l'équipe B que je suis. Ce n'est pas parce que je suis ami à vous que, au cours d'un affrontement de match, vous allez me laisser marquer des buts parce que je suis un bon ami à vous. Non. La politique, c'est les stratégies. Demain, l'opposition, la même opposition, je disais que le débat sur la légitimité était un débat inutile. Parce qu'il faut connaître l'adversaire que vous avez en face de vous et ne pas tergiverser sur des trucs inutiles. L'opposition devait tout simplement saisir l'occasion, contribuer à parfaire la proposition pour que des articles qui semble être mauvais pour elle, puisse bon, retrouver une certaine, je ne sais pas comment le dire, mais pour que ça soit parfait, tout simplement. Mmh. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Cette même opposition reviendra. Elle ne va pas s'atteler sur les débats de légitimité, hein? Non, maintenant, pour dire les articles, l'article tant, ben, le jeu est déjà pipé. C'est ça la politique togolaise. Nous n'avons pas une politique cohérente. Et c'est dommage de constater ça à chaque fois. Mm. Pas une opposition cohérente que je voulais dire.
D'accord, merci beaucoup Abdel. Merci d'être passé dans cette émission. 22, 21, 33, 114. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, notre ami n'est pas en ligne avec nous. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler, réagir au club de la presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Yao.
Monsieur Yao, allez-y.
S'il vous plaît, bon, cette manière de procéder au changement de constitution, est-ce que ça ne va pas laisser un précédent? À supposer que à la prochaine législature, l'opposition prenait la majorité. Donc ça veut dire que l'opposition a aussi pu changer la constitution. Si on ne suit pas le processus, pour changer une constitution, il faut mettre en place une constituante. C'est la constituante qui doit faire une mouture, qu'elle soumet la chose à l'Assemblée. Et ça suit un processus. Mais dire que l'Assemblée va changer une constitution, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une majorité, la majorité va à chaque fois changer de position. Est-ce que c'est une bonne chose?
D'accord. Merci beaucoup, Yao. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
Alain de Kodomé.
Alain de Kodomé. Alain, allez-y.
J'aimerais demander à ces journalistes qui sont au plateau. Nous sommes dans un Togo qui va mal depuis 67 ans. Et subitement, le 25 mars, l'Assemblée sortant après 3 mois nous sort une nouvelle constitution. J'aimerais leur demander s'ils ont des enfants qui vont à l'école et s'ils pensent que, c'est-à-dire, leurs enfants peuvent gouverner ce pays. S'ils veulent que les enfants de Paul Nyasimbe gouvernent leurs enfants, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire, sur le chemin là.
Non, Alain.
C'est pas normal.
Alain. Alain, oui. Tu m'écoutes?
Oui, je t'écoute.
Oui, mais j'aimerais plutôt que vous fassiez alors des observations, pas des questions tendancieuses.
Non, c'est-à-dire...
Non, mais justement, par rapport à la question que vous venez alors de poser... Alors, Alain, merci beaucoup. Merci, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Chacun a sa manière d'analyser l'actualité. 22, 21, 33, 114. Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom, c'est... Pardon, oui, votre nom. Oui, salut, votre nom.
Claude.
Claude, vous nous appelez de quel quartier?
À Gwezongo.
À Gwezongo. Claude, allez-y.
Juste pour dire à M. Francisco Nakokua, il est très intelligent. Que Dieu le bénisse.
D'accord, merci beaucoup. Oui, merci Claude. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse d'aujourd'hui. Allez. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
C'est Fomé de Sagbado.
Fomé de Sagbado. Fomé, allez-y. Ouais.
Et une question pour Firmin. Je voudrais juste lui demander s'il connaît Dimas Dikodo. Dimas Dikodo a fait pire, mais la suite, on la connaît.
Fomé. 22, 21, 33, 114, 91. 36, 63, 75. Il est très important quand même que nous soyons courtois. Et que déjà, nous avons discuté de beaucoup de choses hein, tout au long alors de notre débat ici. L'essentiel, c'est de faire des observations ou de poser des questions quand même si vous voulez vraiment poser des questions de compréhension. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez?
C'est Emmanuel.
Emmanuel, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Belge, je salue le plateau.
D'accord, salut.
Bien, quand on voit la manière dont l'Assemblée nationale fonctionne pour le changement de la Constitution, n'est-ce pas dire que nous sommes en train de construire une nation démocratique et que le même article qu'on évoque pour dire que les députés sortants restent en fonction jusqu'à leur remplacement de nouveaux députés. L'article-là stipule également que, ou soit c'est par une nouvelle élection ou par dissolution de l'Assemblée, il reste en fonction. Dans ce cas-là, n'est-ce pas que le législateur met les deux, c'est-à-dire les deux catégories de députés, dissous ou qui seront remplacés par d'autres députés après une élection? C'est-à-dire que le législateur ne met pas les deux catégories de députés là au même niveau.
D'accord.
C'est parce que... Et puis leur démarche là. Revenons maintenant à notre coutume africaine. On ne fait pas de... On ne désire pas avoir de rapport avec une femme qu'on désire avant de revenir lui faire la cour. Est-ce qu'à dire que on ne peut pas consulter le peuple par référendum d'abord par le peuple et que le peuple par référendum dit oui au test avant qu'on ne procède à un changement de constitution? Si tel n'est pas le cas, donc on peut me dire qu'on peut s'habiller avant d'aller se doucher. Moi, en suivant le développement, c'est comme si on me dit aujourd'hui, et c'est ce que je vais enseigner à mes enfants, que désormais, quand tu veux aller à la messe dimanche, habille-toi d'abord avant d'aller te doucher.
D'accord.
Je voudrais que les
concrets qui sont sur le plateau.
Emmanuel, merci beaucoup. Merci et bonne journée. 22 21 33 114 91 36 315. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Oui, je vais bien. Et vous?
Oui, c'est Basile.
Oui, c'est Basile. Oui, oui.
Voilà, Basile, ça va. Et chez toi?
Oh, tout goulaisement, hein.
D'accord, vas-y.
Oui, oui, bon, c'est pour dire aux deux petits frères Olivier Firmin que, bon, quand ils vont à la maison le soir, ils disent où à leurs enfants, oui, ils sont partis
Basile,
travailler.
Basile.
Bien.
Basile.
Oui.
Nous avons toujours fait ce débat. Je te l'ai toujours dit. Il est très
d'accord,
important.
D'accord. Oui. On laisse.
Bon,
quand Firmin affirme toujours que en 2012, le Parlement est resté. C'est à cause de ça que ce Parlement doit rester. Est-ce que ceux-là ont changé une constitution? Même mieux, ce truc de 113 députés, c'est le FPT uni qui a rapporté ça. Même, on peut même imputer à celui du cas qui a fait cette proposition qu'il a apporté de l'eau au moulin du FPT uni. Mais qui a accepté ça? Moi, dis, on a besoin de 51 députés au Togo. Il ne faut pas qu'ils viennent chaque fois, ministre Sylvain Bohara dit ça, quand ils viennent là, à Médjogbe, quand on appelle là, quand ils viennent là, c'est de ça, ils parlent. Mais c'est qui a c'est quoi même? C'est quoi
Basile.
Oui.
Oui, mais ne vous fâchez pas. L'essentiel, c'est que prenez tout et avec apaisement et dites-nous ce que vous pensez.
Mais vous voyez, j'ai toujours dit que c'est parce que en 2012-2013, les gens ont fait un an de plus. Donc, ceux-là peuvent faire ce qu'ils... Quelqu'un a volé, nous aussi, on doit voler.
Décidement,
mais moi, je ne les comprends pas.
Décidement, Basile, vous êtes en colère de telle enseigne que nous ne comprenons même pas ce que vous dites.
Mais j'ai dit, pourquoi ils font l'analogie avec 2012-2013, que les députés qui étaient là ont fait un surplus. Et que, à ce titre, ceux qui sont là aujourd'hui doivent le faire comme oui, ça c'est... et changer même notre constitution.
Basile, c'est leur manière d'analyser l'actualité. Merci beaucoup, Basile. Alors, bonne journée à toi. Merci beaucoup, puisque chacun a sa manière d'analyser l'actualité. Nous revenons en plateau, chers confrères, hein, pour faire un tour de table et clôturer cette émission. Francisco, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. C'est vrai que beaucoup sont revenus alors sur cette question de révision constitutionnelle. Et finalement, qu'est-ce que vous allez dire pour conclure cette émission?
Non, vous savez, depuis que ce débat a commencé, quand on suit les Togolais à travers les ondes partout, les Togolais sont unanimes que ce n'est pas le moment, c'est inopportun ce changement de constitution. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui risquent de rattraper ceux qui sont en train d'initier ce projet. Je l'ai dit depuis le début, j'ai dit, et le chef de l'État, Florian Singwe, et apparemment ne sait pas encore et tout ce qui lui entoure, tout ce qui entoure la personnalité. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va promulguer cette constitution de la 5e République? Il devient quoi? Il est présentement chef de l'État. Est-ce qu'il devient Premier ministre ou le chef de l'État? Parce que la nouvelle assemblée doit se réunir. Et cette nouvelle assemblée, dans cette nouvelle assemblée, avec le conseil, il doit nommer certains pour être, comment vous l'appelez, sénateurs. Et c'est sénateurs et assemblées qui vont élire qui?
Le président du conseil des ministres.
Voilà. Donc, qui sera le premier, le président du conseil qui va nommer les sénateurs? Parce qu'il ne sera pas qualifié. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des zones d'ombre dont la mise en œuvre va être compliquée. Il vaut mieux maintenir notre ancienne constitution, d'accord, que nous n'arrivons même pas à respecter.
D'accord. Et Firmin?
Je suis très heureux.
Ça se sent.
Merci à tous ceux-là qui sont intervenus. Oui, c'est la démocratie. C'est ce que moi je souhaite pour notre pays. Mais c'est ce que je voudrais demander à ceux-là qui nous critiquent de faire des critiques sans émotion. Cela va de l'intérêt de tout le monde.
Il est très important de dépassionner les débats.
Il est très important de dépassionner les débats. Ne vous attendez pas à ce que je dise que ce que vous voudrez que je dise. Ce n'est pas possible. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est ce que je le dis. Je le dis en toute tranquillité, en toute responsabilité. Vous savez ce que UNIRA est en train de faire, ou ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. Ils sont en train de faire de la politique. Allez lire les grands livres de sciences politiques. Allez lire Machiavel. La politique, c'est comme cela. Ils n'inventent rien. C'est comme ça la politique se fait. Donc, des fois, on peut dire, on peut voir peut-être une certaine exagération. Et c'est ce que nous, quelquefois, journalistes, société civile, on dénonce. Sinon, ils ne font rien que la politique. La politique, quand vous venez, vous êtes là, vous occupez tout l'espace. Si quelqu'un dit non, il ne veut pas l'espace, il occupe. Ceux qui sont là occupent l'espace.
D'aucuns disent que c'est un rapport de force.
C'est un rapport de force. Ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, c'est le sang. La politique, c'est l'argent. La politique, c'est le lit. Partout, c'est comme ça. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, c'est la politique. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc ici, on fait comme on se comprend quelquefois comme si on était des enfants. Mais là, la deuxième chose que je voudrais faire observer, des fois, quand j'entends les gens critiquent, et que souvent, quand vous, au soir des élections, vous sillonnez un peu, moi, je parle du Sud tout d'abord, vous sillonnez un peu quelques quartiers des bureaux de vote, vous allez vous demander... Qui sont ceux-là qui critiquent le régime en place? Parce que quand vous voyez le score de ceux qui sont au pouvoir ces dernières années, mais si ce score va en crescendo, vous vous demandez qui sont ceux-là qui critiquent. Moi, je pense quelquefois que nous sommes dans un jeu de duplicité. Il y a des gens qui vous disent ils ne veulent pas du régime, ils ne veulent pas du régime. Mais le soir ou le jour du vote, ils votent unis. Les Togolais, il y a beaucoup aujourd'hui de millions de Togolais qui migrent vers unis. Ceux qui nous appellent quelquefois sont dans un jeu quelquefois de duplicité. Okay, les gens adorent ce régime.
Ok, ok. Olivier?
Non, je crois que la démocratie, la société démocratique que nous voulons construire et pour laquelle les gens se battent, c'est aussi de laisser les gens exprimer leur opinion et de les contredire dans le respect, je ne sais pas, de la civilité, si vous me permettez le mot. Donc, je crois que c'est vrai que le débat est passionné, mais la passion ne résout rien, d'accord, pour vraiment attaquer au problème et avoir des stratégies, des idées, il faut avoir du recul. Sinon, je crois que ceux qui se laissent aller, ils ne peuvent rien construire avec cette attitude, ni aux yeux du monde qui nous écoute, parce que ça montre un certain niveau de maîtrise de soi qui n'existe pas, et aussi un certain niveau de refus d'abord du débat et aussi des principes qu'eux-mêmes ils veulent... En tout cas, imposé à la société.
D'accord. Olivier, je reste avec vous pour le carton de fin d'émission, puisque nous sommes...
Un carton vert, pourquoi pas, à tous ceux qui sont...
Ce n'est plus le carton, c'est plutôt la note.
Ah, ok, une note, mais si c'est en terme de note, bon, ça serait en tout cas divergent ou bien divers, c'est-à-dire certains auront 3 sur 10, ceux qui sont intervenus, certains auront 9 sur 10, mais chacun se reconnaîtra dans sa note.
D'accord. Ok. Francisco?
Oui, je retire d'abord l'affirmation.
Non, s'il te plaît. Carton de fin d'émission, s'il te plaît.
Note de fin d'émission, je donne 1 sur 10 à ceux qui ont choisi cette période-là pour faire des élections. Nous sommes en période pluvieuse, début de saison pluvieuse. On a tous les problèmes possibles d'inondation. Aujourd'hui, c'est la campagne agricole de Lomé à Saint-Cassé.
D'accord.
Donc,
merci beaucoup. Firmé, note de fin d'émission.
Moi, je donne 7 sur 10 à tous les candidats, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, pour le bon déroulement de la campagne.
D'accord. Merci beaucoup, Firmé Teko Agbo, d'être passé dans cette émission. Merci, Francisco Napokoura, d'être passé aussi dans cette émission. Olivier Adja, merci à toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Ça participe justement à la vie démocratique alors de notre pays. Merci à Thomas Ete d'ATV qui a assuré la mise en onde. Merci à Jérôme Dakoucha qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve déjà lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.
plaisir. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse à débâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer.